dire bonne gestion quand elle a employé le mot de rigueur. La santé n'a pas de prix et pourtant si, 3138 euros par personne et par an, c'est ce que les Français ont dépensé en moyenne l'an dernier selon une étude publiée aujourd'hui par le ministère de la Santé, ce qui met l'addition à 198 milliards 300 millions d'euros, un peu plus de 11% du produit intérieur brut. 5000 contrefaçons saisies ce week-end à la braderie de Lille. La direction régionale des douanes avait mis en place un dispositif spécial, 62 agents étaient mobilisés pour traquer le faux parmi toute la Chine. La plupart des produits saisis étaient de la maroquinerie, du textile, des parfums et des bijoux, imitation de grandes marques. Il y en avait pour 1,5 million d'euros au total. George Bush en Irak, c'était une visite surprise et une visite éclair. Le président américain s'est posé sur la base aérienne Al-Assad à l'ouest de Bagdad. Il faisait étape sur le chemin de l'Australie où il doit assister cette semaine au sommet économique de l'APEC qui regroupe les nations de l'Asie et du Pacifique. W a rencontré le général en charge des forces américaines en Irak. Il a également discuté avec le président Talabani, le premier ministre Al-Maliki et plusieurs autres responsables politiques irakiens. C'est demain que s'ouvrira à Washington la session du Congrès américain où la question du bourbier irakien devrait occuper une bonne partie des débats. Les courses à Chantilly cet après-midi dans la première combinaison gagnante du Quintet Plus. Premier le 9, 15,50, 4,70. Deuxième le 16, 2,50. Troisième le 13, 5,10. Quatrième le 4 et cinquième le 5. Dans la deuxième course, premier le 7, 12, 10 et 4. Deuxième le 4, 4,30. Troisième l'As, 3,50.
Retrouvez tous les pronostics, les résultats, les bonnes affaires du jour par téléphone sur le 32,30, 34 centimes d'euros la minute. 32,30, France Inter au bout du fil.
Ne manquez pas le premier enregistrement du Pont des Artistes, mercredi 5 septembre à 19h30, au studio 104 de la Maison de Radio France.
Isabelle Dordain reçoit le Brésilien Toco avec Coralie Clément, le rappeur James Delec et Benjamin Biolay.
L'enregistrement du Pont des Artistes, c'est le mercredi 5 septembre à 19h30. Rendez-vous à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
France Inter, partenaire du Festival du cinéma américain de Deauville du 31 août au 9 septembre. Les plus grands sont au rendez-vous. Ciné Lumet, Michael Douglas, Sigourney Weaver, George Clooney. Le cinéma à Deauville, c'est 24 heures sur 24. Avec les nuits américaines, du cinéma jour et nuit ouvert au public, des documentaires, la compétition officielle et ses révélations. Renseignements sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
La différence.
Il est 15h05, vous écoutez tous France Inter. Là-bas, si j'y suis, le retour, Daniel Mermet.
Allô, j'aurais aimé savoir si Daniel Mermet allait revenir sur les ondes. Nous l'attendons impatiemment. Je vous téléphone d'Auxerre. Merci.
Bonjour, je vous appelle du magnifique pays du Diois. Alors, je suis très contente parce que je viens d'apprendre que Là-bas, si j'y suis, reprenait à 17h. Eh ben, on a bien tenu la rampe, ben, on continue, hein. Lâchez pas. Salut.
Eh bien, salut. C'était un appel juste pour savoir si Là-bas, si j'y suis, existe toujours. Apparemment, puisque le répondeur fonctionne, c'est donc que l'émission va reprendre. Alors, ouf. À bientôt.
Oh là 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 là, qu'est-ce que je m'embête l'été. L'été, je m'embête. Oh là 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 là. Alors, je m'en vais, j'écoute RMC Info. Oh là là, je m'instruis, je m'habitue à avoir peu de réflexion, que de l'émotion, de la réaction. Oh là là, je m'ennuie, mais je m'ennuie. Oh là 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 là. Oh. Je vais peut-être finir sur Skyrock. Hein, ou alors sur énergie. Bon, encore heureux, il y a les radios locales. Il me reste Radio Doc, Radio Asso. Daniel, reviens. Daniel, reviens. C'est un message de détresse du PDB en direct du Tarn et Garonne. Oh.
C'est pas fini là-bas si j'y suis. Ce matin, j'avais allumé la radio. Enfin, en fait, j'ai pas bien écouté Olivia Gisbert. J'étais pas bien réveillé. Je me souviens de rien. Mais par contre, il y a eu un mec à 11h, là. Eh bien, j'ai entendu deux extraits de là-bas, si j'y suis. Commenté par je sais plus qui, mais ça fait plaisir, quoi. Sans déconner, ça fait plaisir. Alors, le mec qui attaque une nouvelle émission d'été en passant deux extraits de là-bas, si j'y suis, à mon avis, ils vont pas te virer, Daniel.
Eh ben oui, vous revoilà, nous revoilà. On se retrouve au coin de la boîte vocale de la basse J'y suis, qui a été ouverte tout l'été et dans laquelle, au cours de cet été, eh ben vous avez laissé des messages quand ça vous venait à l'esprit, des trucs rigolos, poétiques, indignés, coléreux, impatients, drôles, etc. Enfin voilà, c'est là-bas si j'y suis. C'est reparti, même si désormais, quand on dit là-bas si j'y suis, il y est.
Bonjour, Béatrice de la Martinique. Je vous appelle juste pour vous donner une information. Nous sommes en alerte orange actuellement. Un ouragan ne serait tardé à venir nous rejoindre. Et vous savez, la seule chose que le Martiniquais a en tête, c'est de faire le plein d'essence. Je vous promets, vous allez dans n'importe quelle station service et les gens font la queue pour mettre du carburant. Je voudrais leur poser une question. Est-ce qu'ils pensent quitter le département avec leur voiture remplie d'essence? Parce que s'ils sont pas au courant, nous sommes une île. Béatrice de la Martinique, au revoir.
Bonjour à tous. Nous sommes un groupe de parents d'élèves du pays de Brocéliande, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, et nous sommes inquiets, car nous tenons à vous informer que l'éducation nationale met actuellement en place un système de gestion centralisée des élèves appelé base élève. Ainsi, tous les élèves seront répertoriés dans un fichier informatique unique, centralisé au niveau national. Pour chaque élève, les directeurs d'école actuellement renseignent les informations demandées dans le logiciel. Certains se contentent de ne remplir que les éléments obligatoires, l'état civil de l'enfant, de sa famille, c'est-à-dire les seuls éléments qui jusqu'alors étaient demandés. Mais d'autres champs d'information, pour l'instant non obligatoires, apparaissent dans le logiciel, tels que la langue, la culture d'origine, la date d'arrivée en France, les redoublements, le suivi psychologique, éducatif et bien d'autres. Et si l'enseignant refuse, il subit des pressions. Selon l'administration, ce système ne vise qu'à faciliter la gestion des données. Mais alors nous ne comprenons pas dans ce cas pourquoi l'intérêt d'un fichier national, la multiplication des renseignements demandés, pourquoi ce système est mis en place sans consultation préalable à l'insu des parents et sans leur accord explicite. C'est pour ça qu'à la veille des vacances, on se pose des questions et on est inquiet. Et on considère, je dirais, on considère cela un peu comme une atteinte à la liberté individuelle. Alors, c'est pourquoi, pour toutes ces raisons, nous vous convions à une réflexion. Et pourquoi pas à une prise de conscience, à la rentrée scolaire par exemple. Merci à tous pour votre écoute.
Oui, bonjour, c'est Olivier et je voudrais remercier solennellement le maire de Paris de cette merveilleuse idée des vélos. Les femmes sont belles en vélo, elles sont pas équipées du tout pour faire du vélo, qui fait que c'est vraiment une merveille. Voilà, donc je voudrais remercier le maire de Paris, tout simplement. Voilà, bonne rentrée à tous, au revoir.
Salut Daniel Hermès, salut là-bas, je suis. Moi je suis un routier, j'habite en Slovénie. Et j'écoute sur des CD que j'ai téléchargé sur internet toutes les émissions de là-bas, je suis de 2003 à 2004 dans ces eaux-là. Et c'est assez troublant de voir tout ce qui se passe maintenant et tout ce qui est annoncé à l'époque. Et c'est assez rigolo. Je conseille à tous les auditeurs de réécouter les anciennes émissions pour faire un petit compte rendu comme ça, c'est assez rigolo. Voilà. Je souhaite de bonnes vacances à toute l'équipe et puis on est en plein mois de juillet maintenant, donc l'émission est finie, mais bonnes vacances à tout le monde et puis continuez même à 3h à la place de 5h, c'est pas très grave et on peut toujours les télécharger sur internet là-bas.org. Bon courage à tous. Ciao.
Il y avait des chansons. Des hommes venaient chanter dans la maison sur le pont. Pour le si venaient chanter à Maria dans la maison sur le pont. Pour le si venaient chanter adieu à Maria, parce que notre corps est mort et bien mort. La maison sur le port. avait des chansons, les hommes venaient chanter, dans la maison sur le pont, pour le ciseau chanter, pour le ciseau chanter à Maria. Oh, le ciseau chanter, oh, le ciseau chanter, adieu, adieu, adieu à Maria. Dans la maison sur les ports est bien mort, dans la maison sur le port, parce que notre cœur est mort et bien mort, dans la maison sur le port.
Ah.
Salut, c'est Daniel Mermet avec toute l'équipe de là-bas. Si j'y suis, là-bas, c'est reparti.
Flight number 2, arriving from...
Société, gros succès pour le nouveau parc Aphrodisia de Vierzon. Pour sa première semaine d'activité, le nouveau fleuron de la chaîne de prostitution Discount a attiré près de 600 000 visiteurs. Une belle performance qui vient récompenser une excellente préparation en amont. Mais Marc Dussablon, gérant du parc Aphrodisia, n'entend pas s'endormir sur ses lauriers.
Première chose que l'on doit noter, c'est le niveau global de satisfaction très élevé de la part des usagers. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations à trouver et des choses à approfondir. Et on se rend compte que de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'attentes importantes, prioritaires aux yeux des usagers, qui sont encore largement insatisfaites. Donc l'image est bonne, la satisfaction globale de l'usager est là, mais il y a encore matière à faire beaucoup d'efforts dans bien des domaines.
Oui, car même si c'est exceptionnel, quelques consommateurs repartent mécontents de leur séjour au parc Aphrodisia. C'est le cas de Nicolas, qui a souhaité garder l'anonymat. Au départ, une stupide erreur d'aiguillage l'a conduit dans la section gay passif. Et à l'arrivée, beaucoup de déception, une grosse colère et l'intention de porter plainte.
Il y a une manipulation, je veux savoir qui est derrière. Alors je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué à vouloir la vérité, alors qu'on a voulu salir. Si demain la justice devait découvrir qui était derrière cela, alors à ce moment-là, je pourrais en tirer des conséquences.
Et ben voilà, vous êtes en train de rigoler, mais c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout parce que on avait le projet de commencer cette première émission de rentrée avec l'équipe des surréalistes. Vous vous souvenez, on avait fait une émission en juin qui vous avait beaucoup plu, beaucoup fait rigoler, avec les surréalistes, le journal du futur. Eh ben, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'animateur de celui que vous venez d'entendre, Boris Fleurenceau, eh bien, est mort le 30 août dernier, à l'âge de 35 ans, d'une crise de paludisme foudroyante. Voilà, c'était un excellent journaliste qui travaillait pour RFI, un spécialiste de l'Afrique, un journaliste très très courageux, et c'était aussi quelqu'un de très très drôle, vous venez d'en avoir la preuve, qui avait cette chose assez rare quand même dans ce métier, c'était de mettre son propre métier en abîme et de le regarder avec beaucoup de critiques. Voilà, donc ça commence comme ça, et ses camarades de RFI n'ont pas manqué de lui rendre hommage.
Mais tout d'abord, la rédaction de RFI a la tristesse ce matin de vous annoncer le décès de l'un de nos collègues et amis. Boris Fleurenceau nous a quittés hier, victime d'une crise foudroyante de paludisme. Il avait 35 ans. Les équipes de Radio France Internationale se joignent à l'immense peine de sa famille et de ses proches. Boris, c'était un copain pour beaucoup d'entre nous. Il avait présenté durant plusieurs années les matinales d'Afrique Matin avant de partir faire du reportage sur le continent. Nous tenions ce matin à lui rendre hommage. Notre correspondante au Tchad, Sonia Rollet, le connaissait bien.
Boris Fleurenceau aimait le reportage et les terrains difficiles, comme ici au Tchad.
Aéroport d'Abéché, début d'après-midi. Un petit groupe de prisonniers rebelles arrive sur le tarmac. Avant leur embarquement, une mini-conférence de presse est organisée à destination de la dizaine de journalistes aimablement convoyés depuis N'Djamena par le ministère de la Communication. sous l'œil vigilant des soldats gouvernementaux, un rebelle de l'UFDD raconte son histoire. Les propos sont précis, mais difficilement vérifiables.
Impartial dans son traitement de l'information et passionné par l'Afrique, Boris avait aussi des convictions. Ses coups de gueule, il les faisait passer à travers le Journal du Futur, une série de faux journaux d'information sur Internet censés se dérouler en 2042 pour dénoncer, avec humour, les dérives de la mondialisation, de la politique et du journalisme.
C'est une idée originale qu'a lancé le mois dernier le tour opérateur français Espace Aventure. Clan d'Autour vous propose de refaire le parcours d'un immigré africain tentant de rejoindre les côtes européennes depuis le Sahel. Notre envoyé spécial, Eugène Duchâteau, a suivi le périple de ces aventuriers modernes.
Dans la peau d'un immigré illégal, le concept est simple mais efficace. Tous les dimanches, les participants au Clan d'Autour partent en bus de Kidal au Mali, direction les côtes mauritaniennes. Arrêt buffet prévu dans les bidonvilles type Woodpeak pour découvrir les autochtones. Le tout dans une ambiance pour le moins conviviale.
Dans le bus, les animations, c'est sûr, c'est assez plaisant, c'est vraiment bon enfant. C'est vraiment l'occasion de découvrir des lieux en fait.
L'accueil dans tous ces lieux a été très chaleureux. On est bien.
Arrivé à Nouadhibou, le joyeux groupe embarque sur une pirogue. Direction l'archipel espagnol des Canaries, Robert est à la barre comme un vrai clandestin.
Robert, aux manettes. Alors attention, dès que le feu est vert, Robert, tu vas pouvoir mettre les gaz. Allons-y, c'est parti!
Chaque semaine, Clan d'Autour fait le plein de candidats à l'aventure, à tel point que la compagnie envisage d'ouvrir un autre circuit en partant cette fois du Kurdistan.
Signalons toutefois cet incident survenu la semaine dernière. Une embarcation de Clan d'Autour a été torpillée par la marine espagnole qui l'a confondue avec une vraie pirogue de clandestins. La société affirme que les familles des victimes seront indemnisées.
Le Journal du Futur a donné naissance à une bande dessinée, Tout doit disparaître, qui sortira fin septembre.
Rendez-vous donc dimanche pour le grand soir. Boris Florenceau, Douala, RFI.
Boris Florenceau, Abéché, RFI.
Boris Florenceau, Cotonou, RFI.
Boris Florenceau, l'une des voix de RFI qui s'est donc éteinte hier. Notre collègue nous a quittés victime d'une crise aiguë de paludisme, une maladie contractée lors de ses nombreux reportages en Afrique.
RFI, la radio du monde.
À casa onde vivia a mariquinha, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto do chão ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado, onde vi estas ruínas. Onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que alegrinhas. Mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das cozinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa, onde às vezes petiscávamos sardinhas. Quando em noites de guitarra e de parra estava alegre a mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam, com cortinados de chita às pintinhas, perderam de toda a graça, porque é hoje uma vidraça, com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa, hoje é para ir aos pinhões, entregar ao usurário umas coisinhas. Pois chega esta desgraça, toda a graça, da casa da Mariquinhas. Da casa o que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alminhas. Pois ser casa de penhor, o que foi viver de amor, é ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações de calor e das saudades do gosto, eu vou procurar esquecer numas gingas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas.
Ah merde, ça marche pas. Bon, désolé. Je vous avais enregistré un petit message sur dictaphone, ça marche pas, c'est pourri. Tant pis. Voilà, bisous, vivement la rentrée. Voilà, bisous pour Johan.
Gaillac.
Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 août. Abolition des privilèges. Abolition des privilèges. Comment ça? Il y en a un qui se loue une villa de 2000 mètres carrés pour passer ses vacances. Abolition des privilèges. Abolition des privilèges. Au revoir.
Vendredi 10 août 2007, 13h15. Alors on va dire encore, c'est la police. Mais non, les gens ils exagèrent. La police elle était venue protéger un gamin qui avait un père complètement irresponsable. C'est normal, il était russe, il n'était pas civilisé. C'est pour ça que peut-être qu'il faudrait pas les expulser, il faudrait les éduquer d'abord. Bon. Alors, un père qui s'amuse à passer par la fenêtre au quatrième étage de l'immeuble, comme ça, pour aller se promener sur les toits. Alors, petit Ivan, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire comme son papa. Et la police, ils sont venus juste pour le protéger. Parce que c'est ça, le rôle de la police. Ils sont venus le protéger, mais ils sont arrivés trop tard, il est tombé. Mais on va dire, c'est à cause de la police. Mais non, c'est pas la police. La police, ils viennent protéger les enfants. Même sans papier, les enfants étrangers, ils s'en foutent, ils aiment tous les enfants. Ils aiment tout le monde, la police. Ils protègent tout le monde, la police. Et puis, on va leur foutre ça sur le dos. Ah, oh, quand même, c'est vraiment dégueulasse, quoi.
Voilà des messages laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis au cours de cet été. Vous reconnaissez un habitué de la boîte vocale, c'est Claude. Et ce dont il parle, qui a quand même un peu hanté cet été, eh ben on en retrouvera ce sujet dans les prochains numéros de la base où j'y suis, je pense demain ou après-demain en principe. Ça s'est passé à Amiens, et vous le savez, Amiens c'est la ville de François Ruffin qui est reporter pour là-bas si j'y suis. Alors, je vous offre un choix là, hein, pour cette rentrée. Vous voulez poser des bombes, vous voulez faire la révolution ou vous voulez penser la réforme, hein? Poser des bombes, faire la révolution ou penser la réforme. Eh bien, c'est des questions qui se sont posées lors de l'université d'été du MEDEF, dans l'un des ateliers de cette université. Ça nous a intéressé, hein, poser des bombes, qui veut poser des bombes, il y a des gens qui veulent poser des bombes, faire la révolution, ça intéresse encore peut-être certains Français, certaines Françaises, certains auditeurs modestes et géniaux, ou bien penser la réforme. Évidemment, quand cette question est posée dans le cadre d'une université d'été du MEDEF, on peut supposer quelle peut être la réponse. En tous les cas, c'est le genre de question qui induit certaines réponses. Évidemment, nous, ça nous a intéressés. Vous savez que la ligne éditoriale de la base, si j'y suis, s'adapte à tous les vents, comme tout le monde. Hein, on va du côté de nos intérêts et où le vent nous porte. Et le vent nous a porté, vous avez compris, à cette université. Avec Renaud Lambert, on va voir ce qui s'y dit, ce qui s'y rêve aussi. Mais si, on y rêve. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés au cours de l'été dans la boîte vocale de la base de
Vous vous souvenez de la pub Minimir, mais il fait le maximum. Sarkozy, c'est pareil. Il essaie de nous faire croire que lui aussi, à lui tout seul, il peut tout faire. Non seulement en France, mais sur la planète. Il a voulu nous faire croire que c'est lui, en envoyant sa femme en Libye, qui avait fait libérer des infirmières bulgares. Il est sur le point, dès que ce sera mûr, d'envoyer Cécilia en Colombie, où évidemment elle libérera Ingrid Betancourt. Et pourquoi pas lui mettre un treillis militaire et l'envoyer en Irak pour y rétablir la paix. Non mais toute cette mascarade en écran de fumée de sa politique ultralibérale et des Français qui gobent, ben moi ça me donne le bourdon.
J'ai plus de radio, j'ai plus de télé, j'ai presque tout abandonné. Mais pour rester dans ma logique, je fais de l'agriculture biologique. Il y a des emmerdes, il y a des galères, on est heureux et solidaires. C'est vrai que j'écoute plus France Inter, mais mes copains se désespèrent. Qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais? J'ai tout quitté, j'ai tout largué, mon confort, ma sécurité. Je vis comme ça vient du coq à l'âne, j'habite ma petite caravane. Plus de boîte aux lettres, plus d'internet, enfin le bonheur dans ma petite tête. La révolution, le grand soir, c'est peut-être un peu utopique. Sur mon tracteur matin et soir, je fais enfin de la politique, mais je suis heureux, je suis peinard, j'ai enfin une vie sans phare. Pour certains, c'est la décadence. Salut, bonjour d'Éric de Fayence. Salut à tous les potes.
C'est vrai que je vous ai pas vu ou entendu depuis 6 mois. Allez, ciao, viva!
Bonjour, c'est Christine de Nîmes. Salut à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour nous, elles étaient bien, mais elles se terminent. Et comme c'est la rentrée, ben nous reprenons aussi nos séances des repères des amis de là-bas si j'y suis. Donc à partir de ce mercredi 5 septembre, on va faire notre rentrée au millefeuille à partir de 19h30 pour tous les amis nîmois et des alentours. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus au millefeuille à partir de 19h30 ce mercredi. À bientôt. Au revoir.
Eh bien, Gérard de Lille, Jean de Lille et du Nord, bonjour, Daniel, bonjour. Donc ce petit message pour dire qu'après la braderie, il faut revenir tous en chœur. Ce soir, lundi 3 septembre, à 20h, au Café L'Imaginaire, 5 place Louise de Bétigny, dans le Vieux Lille. Voilà, c'est en pleine forme, avec le beau temps et tout, et de l'énergie. À ce soir.
Il y avait des chansons, les hommes venaient y boire et rêver. Dans la maison sur le port où les filles riaient fort, où le vent faisait chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Les volets se sont rouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort, dans la maison sur le port. Pourtant je suis revenu une nuit. J'avais cru qu'on y chantait comme avant, mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé, du passé. Vainement je recherchais cette fille que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. J'ai bien vu que tout est mort et bien mort, dans la maison sur le port. Sur mes 20 ans que je pleure, bien souvent avec les filles j'ai pleuré. Mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours, nos amours. Je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, allons voir pour oublier, oublier. Puisque notre cœur est mort et bien mort, dans la maison sur le port. Puisque notre cœur est mort et bien mort. Sur le port.
Vous êtes chef d'entreprise, toutes les deux?
Non. Dirigeante de MEDEF Territoriaux.
Voilà, toutes les deux en plus.
Voilà, à Cambrai et à Valenciennes.
Et à Valenciennes.
C'est quoi le travail de MEDEF Territoriaux?
C'est de conseiller, informer, accompagner les entreprises
et les défendre.
Voilà. Donc aujourd'hui, notre travail à nous, en MEDEF, consiste à essayer de réconcilier l'opinion, donc les salariés, les institutions, les médias, avec l'entreprise. Ce qui n'est pas facile.
Y compris les médias.
Y compris les médias, voilà. Parce qu'on a toujours tendance à ne voir des articles que sur des entreprises qui licencient, qui,
oui,
vont,
qui
mal.
Vont mal.
Lorsque ça va bien, ça n'intéresse pas les journalistes,
non,
qui me l'ont dit eux-mêmes, ça ne fait pas vendre.
Voilà.
Une entreprise qui va bien, ça ne fait pas vendre.
Non.
Une entreprise où il y a un ouvrier qui sue, ah bah là par
oui,
contre, ça fait
bien.
Vendre. Tremper la plume dans le sang, il paraît que c'est,
oui, c'est,
il paraît que c'est très bien. Et c'est un journaliste qui me l'a dit. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de le citer. Un dernier exemple qui montre bien qu'en France, on, au niveau de la plupart des salariés, on a vraiment un état d'esprit particulier à l'égard du patron. C'est que moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui travaillent avec des chefs d'entreprise étrangers, notamment en Italie. Et ils me disent, voilà, en Italie, quand le patron il arrive avec une belle voiture, c'est très bien, les ouvriers sont contents parce que ça veut dire que l'entreprise marche bien, le patron a les moyens de se payer une belle voiture. Donc ils sont contents, ils sont fiers. Ils sont fiers aussi d'aller faire leurs courses en bleu de travail. Ils sont fiers d'appartenir à une entreprise qui gagne de l'argent. En France, c'est pas du tout comme ça. Le patron, si vous le voyez arriver avec une belle voiture, c'est un salaud, c'est un profiteur. À la limite, il lèse les salariés. Donc il y a un problème de culture par rapport à ça. Et...
ils sont pas fiers de leur patron qui a une belle voiture?
Jamais. Enfin, c'est très rare.
Ils seraient peut-être fiers si eux, ils avaient une belle voiture, non?
On n'en sait rien. On leur a pas posé la question.
Il faudrait leur donner la belle voiture avant, c'est ça?
Voilà, et puis voir après comment ils réagissent.
Voilà, mais pour qu'ils aient la belle voiture, peut-être qu'il faudrait qu'ils aient le courage de devenir eux-mêmes chefs d'entreprise. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Pour être chef d'entreprise, gagner bien sa vie en tant que chef d'entreprise, ça veut dire qu'on a pris des risques à un moment donné dans sa vie, y compris dans sa vie familiale. Et ça, ce risque, ça se rétribue quelque part.
Voilà.
Donc il faut que les salariés comprennent qu'eux-mêmes ne peuvent pas avoir cette rétribution-là.
D'accord.
Voilà.
C'est une joie pour moi de vous retrouver à l'occasion de cette université d'été du MEDEF. En répondant à votre invitation, j'ai voulu exprimer mon souhait que toute la nation soit rassemblée derrière ces entreprises. Je veux également dire mon estime à Laurence Parisot parce qu'elle fait tout pour réconcilier les Français avec leurs entreprises, là où tant d'autres essayent de les séparer.
Eh oui, même sur la plus perdue des îles du Pacifique, même au fond d'un bunker à 100 mètres sous terre, il était là, dans le coffre de la voiture, dans le placard, il était là, sous le lit, dans le lit, le matin sous les tartines, il était là. Nous avons tous passé l'été avec lui, chaque jour, chaque nuit, chaque seconde, et ça continue, et nous, les Français, ça nous plaît, et les médias français aussi, ça leur plaît. Son bourrelet effacé par Paris Match, l'angine blanche de Cécilia, la visite à notre ami Bongo, comme à notre ami Bush, on en redemande. La centrale nucléaire à notre ami Kadhafi, le frère de Rachida sévèrement condamné, DSK qui serait G, l'amant de Yasmina, on en veut encore. C'est ce que nous disent les médias, ça nous plaît. Les médias se régalent, chaque jour, ils leur fournissent tout chaud le nouvel épisode qui accroche l'audience, du croustillant, du compassionnel, de l'emphatique. Peu importe, il faut que ça mousse chaque jour. Zorro, Kennedy, Malraux et Michel Sardou à lui tout seul. L'Italie nous envie, même Berlusconi ne faisait pas aussi fort. C'est l'unanimité de l'Express à Charlie Hebdo, de Jean-Marie Le Pen à Michel Rocard. La France est derrière lui et nous aussi, nous les dindons. Les dindons BA, les sondages le disent, c'est donc vrai, voilà la réalité. Et Karl Rove, l'éminent conseiller de George W. Bush, le disait sans complexe, nous sommes un empire, désormais... nous créons notre propre réalité. Alors nous sommes là aussi, nous les petits de là-bas, si j'y suis, pour cette université d'été du MEDEF, afin, c'est notre tâche et notre conviction, mais bien sûr c'est notre conviction, de réconcilier les Français avec l'entreprise. La nation doit se rassembler derrière ses entreprises.
Alors monsieur, vous faites partie des chanceux qui ont réussi à avoir un pull vert que vous avez noué sur vos épaules. On reconnaît certains des participants au pull.
C'est parce que je suis arrivé de bonne heure hier, c'est pour ça.
Ah d'accord. Vous êtes chef d'entreprise?
Oui.
Quel genre d'entreprise?
Du courtage d'assurance. Voilà, d'accord. Dans l'ouest de la France, en Bretagne.
D'accord.
Une entreprise de 70 personnes spécialisée sur le risque d'entreprise.
D'accord. D'accord. Ça vous place pas dans les Français moyens quand même. J'imagine que
dans les Français de chef d'entreprise d'entreprise moyenne.
Chef d'entreprise moyenne. Voilà, c'est ça. Vous avez parlé d'effort. C'est un mot qui revient assez souvent dans le discours du président Sarkozy. On sent bien que pour faire sauter les verrous qui empêchent la réforme, il va falloir faire des efforts. Alors, c'est quoi les efforts à faire ?
Travailler plus, plus longtemps, et de toute façon, je pense que les Français, comme je pense que tout le monde, a compris qu'on se construit dans le travail et par le travail, et que les loisirs, c'est très bien quand c'est entre deux périodes de travail. Et des loisirs de façon trop importante, c'est pas bon ni pour la tête ni pour le corps. Voilà, on se construit dans le travail. Je pense qu'il va falloir sûrement beaucoup de pédagogie. Il y a un moment, il faut passer de l'explication de la pédagogie à l'action. Dans les années passées, dans d'autres pays, il y a eu des gouvernements comme Madame Thatcher qui ont su faire preuve à un moment de volonté politique et qui ont, je pense, participé à ce que l'Angleterre aujourd'hui connaisse, une fabuleuse croissance. Donc il faut briser les conservatismes. Et les conservatismes ne sont pas toujours du côté où on les attend.
C'est-à-dire qu'ils sont parfois du côté de l'intermondialisme.
Voilà.
Un petit QI, un gros bunker.
C'est là ?
Nouvelle droite.
Foie de fruits à four.
Ici, il y a encore une pudeur à avoir une belle voiture. La preuve, quand Sarkozy est allé sur le bateau de son ami, ça a fait quand même un crash, donc bon.
Comment ça s'explique, ça ?
L'étroitesse du français, moi, je dirais.
Là, on a l'impression qu'avec Sarkozy, on se souvient du Ritz. Non, pas du Ritz, excusez-moi.
Le Fouquet.
Le soir de son élection. On se souvient de son séjour sur le yacht luxueux de Bolloré. C'est ça. Et donc, de ses vacances. C'est pas un hasard, c'est un homme qui contrôle sa communication. Il essaye de démontrer quelque chose, non ?
Il a quand même utilisé un mot qui est fort, le mot capitalisme. Il l'a prononcé. Bon, mais ce que je trouve dommage, c'est que la presse, excusez-moi, mais perd du temps à dire qu'on lui a shooté une photo où il y avait des petits bourrelets, etc. Je trouve que ça, c'est sans intérêt. Et ça, c'est le côté français que je trouve dommage.
Par contre, la réhabilitation du terme capitalisme, pour vous, ça, c'est important.
C'est l'évolution si on veut que les entreprises restent en France et ne se partent pas.
Il y a un atelier qui a lieu en ce moment, juste derrière cette tente, derrière nous, dont l'intitulé est « Poser des bombes, faire la révolution ou penser la réforme ». Qui est-ce qui veut poser des bombes ou qu'est-ce qui veut faire la révolution en France aujourd'hui ?
Moi, je ne pense pas que ce soit les Français, parce que les Français ont gardé une image de mai 68, et je ne pense pas qu'ils ont envie de ça.
C'est fini, mai 68 ?
Complètement. Donc, je pense qu'on ne reverra pas.
Je compte beaucoup sur les travaux d'un homme de grande qualité, les travaux de Jacques Attali. Au fond, peut-être que je suis celui qui sait le mieux exploiter les richesses humaines du Parti socialiste. Ils ont des gens très bien. Ils ne les utilisent point. Dans une autre vie, je pourrais peut-être faire directeur des ressources humaines.
Dominique Strauss-Kahn, au terme du deuxième tour de l'élection présidentielle, a dit sur les plateaux de télévision qu'il fallait dire la vérité aux Français. En ce sens, dire la vérité aux Français, c'est leur dire qu'effectivement, l'économie de marché impose des règles, les règles de la concurrence, les règles de la libre entreprise, et que l'action politique doit intégrer cette réalité-là. Et faire croire à la population française que l'on peut prélever toujours plus, avoir des dépenses publiques à un niveau élevé alors que les concurrents ne le font pas, tout en maintenant un haut pouvoir d'achat, tout en maintenant un niveau d'emploi élevé, c'est toute évidence leur mentir. Et je pense que c'était le message que Dominique Strauss-Kahn a voulu passer le soir même du deuxième tour, et dans lequel ici beaucoup de participants se seraient également reconnus.
Voilà. D'accord. Et là, vous allez assister à quel atelier ?
bien, je vais assister à l'atelier. Poser des bombes, faire la révolution ou penser la réforme, c'est son lien avec les événements de la dernière semaine. Puisqu'il y a eu une bombe ici de découverte la semaine dernière, vous savez, qui était dans les toilettes, près du bureau de Laurence Parizeau.
D'accord. Et la révolution, c'est quoi alors? Qui veut faire la révolution aujourd'hui en France?
Je sais pas, il paraît qu'on est une extrême gauche, non? Révolutionnaire. Donc en dehors d'eux, je ne vois pas. Non, nous, on est dans une logique d'évolution, ce qui est totalement différent, quoi. Et les révolutionnaires ont perdu, je pense, la bataille politique, la bataille économique, la bataille de la démocratie. Et je pense que, en bon héritier de la philosophie des Lumières, on ne peut que se satisfaire de cet affaiblissement dans l'opinion des révolutionnaires ou des pseudo-révolutionnaires.
Membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de défendre tout ce qui paye l'ISF et la liberté d'entreprendre, et je me battrai pour qu'on baisse significativement les charges, étant donné ce qu'on encaisse pour nos manœuvres et plus de marge. Quand je serai membre du MEDEF, je serai le partenaire social de ton précaire et des SDF, car quand on est libéral, on rend le travail plus flexible, et pour ce qui est de la justice, on promet la main invisible. Gagne, je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il me reste que, il me reste rien à la fin du mois. Quand je serai membre du MEDEF, j'aurai pour tâche de foutre en l'air tout ce qui rapporte pas des airs et qui coûte cher aux fonctionnaires. Et je me battrai contre la crise pour relancer l'activité. J'entendrai qu'on la délocalise partout où on peut l'exploiter. Quand je serai membre du MEDEF, je dirai que le libre-échange peut tout, pendant que j'engrangerai les bénéfices. En embauchant à moindre coût, je serai pour un état régalien, armé des lois de la police qui se tiennent main dans la main. Madame Smith. Ils disent que le droit du travail n'est pas favorable à l'emploi parce qu'il est trop contraignant et contre-productif. Ils disent que le salarié devrait ne devoir compter que sur soi parce qu'il ne peut pas y avoir de projet collectif. Ils socialisent les cons et privatisent les bénéfices. Les biens publics ne valent le coup qu'à condition qu'ils s'enrichissent. Alors je me dis que je dois pas être le seul en lice à vouloir mettre ma main dans la gueule d'Adam Smith. Un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il ne reste que, il ne reste rien à la fin du mois. Et je gagne et je dépense un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et je comprends pas pourquoi il ne reste que, il ne reste rien à la fin du mois.
Alors nous sommes en train de faire la queue pour accéder à un stand Agendas où on distribue des rafraîchissements. Alors monsieur, vous êtes chef d'entreprise ?
Je suis consultant aujourd'hui, mais j'ai beaucoup d'activités différentes. Je suis aussi impliqué dans une fédération professionnelle, le syndicat des entreprises de commerce extérieur de la machine agricole. Je suis à la commission liaison défense du MEDEF. Je suis aujourd'hui consultant, j'étais ancien président d'une filiale d'un groupe suédois, donc j'ai beaucoup d'activités différentes.
J'ai la chance d'être tombé sur vous, votre avis m'intéresse à plus d'un titre. Quelle est votre réaction au discours du président de la République, Nicolas Sarkozy?
La première réaction, c'est, je dirais, dans la forme déjà, c'est, on sent beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. C'est-à-dire quelqu'un qui a envie de faire bouger les lignes, et ça c'est quand même relativement nouveau. Aujourd'hui, on avait plutôt un discours assez conventionnel, qu'il fallait aller, je dirais, prudemment, il y avait un certain nombre de peurs. Il est commun de dire que la France était impossible à réformer. Et finalement, le discours aujourd'hui, c'est de se dire, finalement, si on explique clairement les choses aux Français, si on explique clairement les enjeux, on s'aperçoit que les Français, finalement, sont tout à fait d'accord.
Vous avez une décoration à la veste?
Oui, je suis officier du ministère agricole.
Il y a aussi un élément qui est très nouveau en France, c'est qu'on découvre une droite décomplexée.
Oui, je dirais même que c'est presque au-delà de dire une droite décomplexée, parce qu'aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que c'est la droite, qu'est-ce que c'est la gauche. D'ailleurs, on voit beaucoup de gens de gauche qui rejoignent la droite. J'entendais Claude Alec ce matin, interrogé par Jean-Michel Apathy. Claude Alec, avec qui j'ai dîné il n'y a pas très longtemps dans le cadre d'un club qui s'appelle Agriculture en Société, dont je fais partie aussi, je connais bien Jean-Michel Apathy, etc. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de... Je suis un petit peu partout, je suis aussi dans l'automobile, etc. Et donc, Claude Alec disait, moi, je ne reprendrai pas ma carte du Parti Socialiste, et j'admire Sarkozy pour son énergie, pour sa volonté de faire, et je crois que ça, c'est bien. Les Français souscrivent à ça, je crois.
Reagan, en 84,
oui,
avait eu ce slogan qui avait beaucoup marqué, America is back.
Oui, c'est vrai.
L'Amérique est de retour.
On entend la même chose aujourd'hui.
France is back.
Absolument, partout. Oui, on en sait, moi j'entends, parce que je travaille aussi à l'international, et j'ai entendu cette phrase-là aussi très souvent, des étrangers, donc ça nous fait plaisir aussi.
Les verrous sont en train de sauter.
Oui, je pense aussi, oui.
Les archaïsmes...
Oui, oui, tout à fait. Donc je crois que c'est un tournant, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, et... Moi, je suis confiant, il nous faut des résultats, mais quand on voit l'énergie déployée, quand on voit la force de conviction et la force de pédagogie, bon, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
Et les médias jouent leur rôle? Est-ce qu'ils, pour reprendre le slogan de l'université, est-ce qu'ils jouent le jeu?
On pense qu'aujourd'hui, les médias commencent à se dire, ben, finalement, Sarkozy, c'est quelqu'un qui dirige, qui bouge, il est un peu partout, et finalement, semble jouer le jeu, à mon avis, globalement. Il y a toujours des médias qui sont critiques, c'est un peu leur rôle, leur jeu. J'entendais ce matin dans un atelier, il y avait le patron de Charlie Hebdo. On peut pas dire que c'est un homme de droite extrémiste, mais qui finalement, on le voit souvent s'exprimer dans un certain nombre de ses idées ou ses expressions. On peut pas dire qu'il est d'accord surtout avec Sarkozy, mais il n'est pas non plus hyper négatif par rapport à Sarkozy.
Je vous laisse à votre glace, bon appétit.
Merci.
Mais non, pas du tout, il n'est pas du tout négatif. Je regarde une petite note, la prise au cours de l'été, comme ça. Écoutez ça. Un pays qui pense alors qu'il faut cesser de penser, de tergiverser et se retrousser simplement les manches. Eh bien, c'était Christine Lagarde, ministre des Finances, qui s'exprimait ainsi, je répète, un pays qui pense alors qu'il faut cesser de penser, de tergiverser et se retrousser simplement les manches. Je note ça comme ça au passage dans un hebdomadaire qui s'appelle Le Canard Enchaîné et qui rappelait que Madame Christine Lagarde, avant d'occuper ce poste, était avocat d'affaires aux États-Unis, à Chicago, avec un salaire annuel de 600 000 euros. Ce qui est quand même pas mal. Quant au commentaire qui a été fait sur la Grande-Bretagne et sa croissance formidable grâce, ce participant à cette université du MEDEF, selon la fondation britannique Joseph Rowntree, jamais depuis 40 ans les inégalités n'ont atteint une telle ampleur en Grande-Bretagne. Les 1% les plus fortunés, qui possédaient 17% de la richesse publique en 1991, en représentent aujourd'hui 25%. Jamais autant de personnes ne se sont situées au-dessous du seuil de pauvreté et jamais les ségrégations territoriales n'ont été aussi importantes, selon, je le répète, cette fondation britannique. C'était un petit, là aussi, quelques notes prises dans un hebdomadaire qui s'appelle Marianne. Alors, vous savez ce qu'on va faire cette année, si vous voulez bien? Ben, vous allez faire ça, amis auditeurs. On va faire les RG de là-bas, si j'y suis. RG comme renseignement généreux. Voilà. C'est-à-dire que vous prenez des notes, des petites choses comme ça, des très très brèves, mais parfaitement, dont les sources sont très claires et qui sont bien recoupées. Et on diffusera ça dans notre, dans les messages ou bien sur notre site là-bas.org. Enfin, on trouvera le moyen de diffuser. Mais c'est extrêmement précieux d'être précis comme ça. Ça peut éviter le flou artistique. On continue avec donc cette université d'été du MEDEF et le micro de Renaud Lambert de là-bas, c'est j'y suis.
Oui, moi je suis très confiant sur la volonté des Français de s'appuyer sur l'entreprise et je crois qu'on va redonner le goût du boulot à nos concitoyens. On essaie d'expliquer encore plus l'importance de travailler plus longtemps pendant la semaine, de travailler plus longtemps pendant sa vie.
La valeur travail.
La valeur travail, exactement.
Oui, je pense que l'opinion, elle se forge au travers de ce qu'elle entend, de ce qu'elle lit, de ce qu'elle voit. Et c'est vrai que si tout le monde dit à peu près la même chose, à la fin, on y arrivera peut-être.
Et dans ce cadre-là, les médias ont leur rôle à jouer, leur responsabilité.
Oui, mon sous-entendu était donc clair.
Le clivage gauche-droite aujourd'hui vacille un tout petit peu. On s'aperçoit qu'à l'université du MEDEF sont présents des gens dont on sait qu'ils sont de droite, des membres du gouvernement, mais aussi des gens, des libertaires comme Philippe Val, qui était présent ce matin, je crois. Et l'on sait que le gouvernement bénéficie d'un appui de membres du PS, Michel Rocard le dernier, jusqu'à Jean-Marie Le Pen. Est-ce que c'est la fin des idéologies en France ?
Moi, je crois que la ligne de fracture aujourd'hui, elle est entre ceux qui veulent protéger en édifiant des murailles et ceux qui veulent protéger en rendant le pays, en rendant les individus, en rendant les familles plus fortes. C'est plus un débat idéologique. Mais on se guérit pas de ces vieux démons en 4 mois. Il y a eu un affaiblissement à la fois, je dirais, à gauche du Parti communiste et du Parti socialiste. D'un autre côté, dans le même temps, vous avez eu un renforcement de l'extrême gauche, qui est une extrême gauche idéologique, enfin, qui est doctrinaire. Mais la preuve, c'est qu'Olivier Besancenot et Alain Krivine se défendent du fait d'être trotskistes. Donc, quand on se défend de quelque chose, c'est bien qu'on a un souci. Donc, elle n'est pas morte, l'idéologie. Les idéologies ne sont pas mortes.
En 84, si je ne me trompe pas, Ronald Reagan avait eu cette formule qui avait marqué « America is back », les États-Unis sont de retour. Est-ce que vous pensez qu'on pourra dire d'ici quelques temps « France is back » ?
Oui, moi je crois que déjà la France est de retour, puisque le courant de la rénovation est partout, même dans la gauche. Donc ça veut dire que le pays se régénère après une période longue de dirigeants vieillissants. Je crois qu'il y a un renouvellement des élites, il y a un renouvellement des dirigeants à tout niveau qui va nous permettre d'avancer. Je crois que la France revient sur la scène internationale. Ça nous donne un poids dans la mondialisation et une responsabilité qui est forte.
Bah, faites-nous rêver. Dans 2 ans, où est-ce qu'on en est ?
Bah, je crois que si le taux de chômage est à 7%, c'est le signe que les Français auront retrouvé le goût de l'effort et du travail, que l'on aura fait un certain nombre de réformes et qu'on aura fait une véritable rupture, que, autrement dit, un certain nombre de capitalistes qui ont quitté le pays seront revenus avec leur argent.
Le retour de nos élites.
Le retour de nos élites qui ont envie d'avancer. Et il y en a beaucoup qui préfèrent aller s'expatrier pour aller faire des choses parce qu'ils n'y arrivent pas.
Oui, de manière concrète, moi, il y a une chose que j'attends vraiment avec impatience, c'est effectivement cette possibilité dans le droit français qu'une entreprise et un salarié puissent se séparer, je dirais, par consentement mutuel, même si l'initiative revient à l'entreprise, parce que c'est de ça dont il s'agit. À partir du moment où les deux parties sont d'accord, on doit pouvoir aller plus vite sans être obligé de passer par toute une phase qui finalement est du temps perdu à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié qui devient omnibulé par la défense de ses intérêts au lieu d'être projeté vers l'avenir pour retrouver un job, pour passer à autre chose. Mais il faut que ça soit un cadre simple. Et sur certaines situations, qu'on accepte de dépoussiérer un peu un certain nombre de choses. Et là, effectivement, on pourra se dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qui a vraiment changé.
Une rupture.
Oui, une rupture.
Une vraie rupture.
Une vraie rupture.
Et je vous remercie, messieurs.
Merci.
Merci à vous.
Voilà ce qu'on peut entendre, ce qu'on pouvait entendre dans cette université d'été du MEDEF. Alors voilà, c'est là des gens qui sont engagés, impliqués, qui réfléchissent et qui pensent, qui sont des chefs d'entreprise. Donc ils sont, évidemment, vous avez compris, une élite avec toutes les récompenses et tous les mérites que cela peut représenter. Je rappelle que la nation doit se rassembler derrière ces entreprises, c'est-à-dire derrière cette élite. Mais derrière l'élite, et bien derrière le décor, enfin, il y a aussi des gars qui font le boulot.
Alors vous n'avez pas le pull vert autour des épaules ?
Non. Non. On monte les tentes. Donc on n'est pas parti des invités, quoi. Nous on est plus là pour le travail.
D'accord. Plus les ouvriers qui.
Voilà, les ouvriers qui montent les tentes, qui s'occupent de la décoration et tout ce qui va derrière.
Vous avez entendu le discours de Nicolas Sarkozy ?
Oui, on a écouté le discours.
Alors c'est quoi vos réactions à tout ça ?
Bah, je pense que les idées sont pas mal. Maintenant, faut voir si elles seront appliquées. Comme tous les travailleurs, on attend les heures supplémentaires énumérées et toutes les promesses qu'on nous a faites. Et bien sûr, si ça se réalise, c'est ce qu'on veut. Et si c'est pas le cas, et bah, on sera déçus.
Vu d'en haut, notre planète est uniforme, habitée par de petits êtres grouillant ça et là. La forme globale de notre chère Terre, grand charter où s'entassent anonymes, quelques milliards de vies qui triment, s'animent, certains au culot friment pour sortir du lot. Un cookie lose, un cookie win, mais jamais vraiment il ne se détache du peloton, un être d'exception à part les champions. Modeste à la parole leste, il nous faut un sauveur humaniste au grand cœur, dynamique qui s'engage et qui fait péter les sondages. Champion rock'n'roll, sauvage et indomptable, vieux loup impénétrable, rebelle chez les people, allume le feu pour de bon, oui mais devient docile, comme un petit mouton, avec optique 2000. Champion du bon sens, champion du populisme, parle avec aisance, champion du charisme à la cote qui monte, et devient président, mon peuple me fait honte, à 53%. Modeste à la parole leste, il nous faut un sauveur humaniste au grand cœur, dynamique qui s'engage et qui fait péter les sondages.
Merci à tous. C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci également à la Sonothèque de RFI. Le site du journal du futur, c'est www.sourrealisme.org. Et la bande dessinée de Tout doit disparaître de Guillaume Podrovnik, Antoine Silvestri et Boris Florenceau sortira le 27 septembre aux éditions Danger Public. Toutes les informations sont disponibles sur le site de franceinter.com à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. Vous pouvez retrouver, vous le savez, toutes les archives de là-bas. Si je suis, enfin, presque toutes les archives, plus de 1000 émissions sont à votre disposition. À la technique aujourd'hui, Farid Chibani et Julien Chabassu. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry. Et c'est toujours Christophe Humbert qui a la charge, la lourde charge du répondeur de la boîte vocale de la base Si J'y Suis. Le répondeur de la base Si J'y Suis, c'est le 0156 40 37 37, 0156 40 37 37. Il va être, il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base Si J'y Suis. Je vous laisse pour les infos avec Thierry Stenner. Salut!
Il faudra encore 6 bons mois avant que GDF Suez devienne une réalité. Au mieux, ce sera pour le premier semestre 2008, a dit tout à l'heure Jean-François Cirelli, le patron de GDF, au cours d'une conférence de presse commune avec Gérard Mestrallet, le PDG de Suez. Avant d'être consommé, le mariage doit en effet encore être approuvé par les actionnaires et par la Commission européenne. Suez doit également se séparer en partie de son pôle environnement pour l'eau et la propreté. Les transparents montrés lors de la conférence de presse des deux patrons montrent que le capital du nouveau groupe GDF Suez appartiendra à 55% aux actionnaires de Suez et à 45% à ceux de GDF. L'État, aujourd'hui actionnaire à 80% de GDF, sera le premier actionnaire du nouvel ensemble avec 35,6% du capital, ce qui lui donnera une minorité de blocage. Jean-François Cirelli a par ailleurs assuré que la fusion n'aurait pas de répercussions sur les prix du gaz, mais cela ne suffira sans doute pas à rassurer les associations de consommateurs, les syndicats et la gauche. Pour Force Ouvrière, la fusion est une mauvaise nouvelle pour les salariés et pour les consommateurs. Le socialiste Stéphane Le Foll, porte-parole de François Hollande, prédit également des hausses. Il fait aussi remarquer que Nicolas Sarkozy s'est renié. Il est interrogé par Louise Baudet.
Cette fusion, elle a une conséquence très simple. Privatisation de Gaz de France et démantèlement de Suez. Avec une filialisation de toutes ces entreprises qui concernent l'environnement, donc fragilité. Et avec une conséquence pour les Français, c'est que demain, les prix du gaz vont être dictés par des actionnaires et seront augmentés, puisque dès qu'on rentre dans un logique de marché, le prix d'énergie augmentant, les prix du gaz vont augmenter. Et puis je rajouterai un point aussi, c'est que c'est quand même un reniement par rapport à des engagements de Nicolas Sarkozy. En 2004, il avait fait voter une loi pour dire que la part du public dans Gaz de France serait à 70% et ne descendrait pas en dessous. Vous voyez, on en est rendu à 30%. Il était contre aussi le projet de privatisation de Gaz de France et de fusion avec Suez. Et on voit bien que sur ces engagements-là, il a tourné la page. Quand il disait qu'il ne mentirait pas, bon, ben là, sur ce sujet-là comme sur d'autres, il y a un petit couac.
Au moins 860 000 malades en France et le nombre augmente chaque année. Alzheimer est un véritable défi pour la recherche et pour la société. La commission présidée par le professeur Joël Ménard sera officiellement installée cet après-midi par Nicolas Sarkozy. Elle aura peu de temps pour réfléchir. Le chef de l'État attend les premières orientations pour le 21 septembre, date de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Surprise, surprise, George Bush.